Lucia Palier. On va inviter nos deux intervenants à nous rejoindre. Ce sont deux élus. Et on va prendre un peu la direction du sud avec vous deux. On va commencer un petit peu à aller dans le sud avec vous. Vous êtes de la région de Limoges, du Vigin. J'espère que je ne me trompe pas dans la prononciation. De Vigin, pardon. Le Vigin, donc vous pouvez... Enfin, comme vous... c'est peut-être mieux. Non, vous voulez rester debout ?
Bon,
très bien. Et puis on va aller encore un peu plus dans le sud avec vous, parce que vous, c'est la région de Toulouse. Donc vous êtes adjoint au maire de Cugnaux. Effectivement, on va comprendre avec vous comment on met en place une action d'éco-pâturage. Comment on essaye de convaincre peut-être ses élus, ses collègues élus. Ça, c'est peut-être déjà la première démarche. Comment associer la population? On l'a entendu tout à l'heure, quelqu'un l'a dit, c'est primordial que la population soit associée. Vous allez nous expliquer comment vous, l'un et l'autre, vous l'avez fait sur votre commune. Comment aussi décider parfois les agents, c'est pas toujours facile, hein, parfois certains agents se retrouvent éleveurs sans l'avoir souhaité, donc en étant donc agent des espaces verts au préalable. Comment lever les premières réticences, bien évidemment, comment concrétiser et comment élaborer ce projet, comment le mettre en place, et puis peut-être après comment le développer, comment ça a un effet levier. On l'a entendu tout à l'heure avec l'exemple de la ville d'Angers qui a dit ça a démarré par l'éco-pâturage et puis après d'autres choses se mettent en place. Vous allez pouvoir nous expliquer tout ça, peut-être aussi nous dire quels écueils à éviter pour que ça fonctionne. Les uns et les autres, vous avez rencontré quelques difficultés, et j'ai envie qu'on commence avec vous, donc monsieur François Jacques, hein. Je rappelle que vous êtes adjoint au maire de Cugnaux. Et je crois que vous avez été la première commune en Haute-Garonne à vous lancer dans l'éco-pâturage. Donc bravo. Et comment vous avez fait ?
Merci. Merci de cette introduction. Donc François Jacques, donc adjoint au maire, comme on l'a dit, je vais essayer de vous parler, enfin nous allons essayer de vous parler, du parcours d'un élu pour mettre en place l'éco-pâturage dans sa ville. Donc je vais le faire, je vais le dérouler tranquillement, et je verrai après qu'il faut vraiment, cette association Entretien Nature et Territoire a été importante pour nous. Et vous verrez qu'on a rajouté aussi un maître de conférence. Et je vous propose de dérouler un petit peu avec tous les objectifs que nous avons eus, tout ce qu'on a découvert au fur et à mesure, parce qu'on a vu que finalement, ce n'était pas uniquement l'entretien des espaces verts. On a vraiment élargi tout cela. Et on a mis une année pour le mettre en place. Et je pense que les communes qui sont intéressées, c'est de vraiment prendre le temps de bien analyser. Et c'est ce que je vais vous montrer maintenant. Donc tout de suite, où se trouve Cugnaux ? Donc ça fait partie de la métropole toulousaine, c'est au sud-ouest, il y a 17 000 habitants quand même, 12 km de la place du Capitole, de notre mairie, et puis c'est la quatrième ville de la métropole avec 13 km². Donc vous voyez, elle est juste au petit sud de Cugnaux. Je vais pas la prochaine, s'il vous plaît. Voilà. Bon, je vais pas vous dire ce que c'est que l'éco-pâturage, hein, mais c'est bien, nous avons mis en place la gestion différenciée des espaces verts. Hein, vous savez qu'on ne tombe pas tout, on laisse pousser un petit peu, donc on avait mis. Et donc finalement, c'est aussi une complémentarité, hein, de la gestion différenciée, c'est aussi de mettre l'éco-pâturage parce que on gère différemment les espaces verts. Et surtout, on avait une volonté affirmée, c'était de ne pas mettre une place, de pas juste faire un coup de pub. C'est-à-dire que bon, c'est facile, on prend un troupeau, on le fait paître là, on met la dépêche du midi, hein, puisque c'est notre journal local, les élus se mettent dedans, c'est tout ça, et puis après, il n'y a plus rien. Donc on a voulu vraiment que ça s'inscrive dans le temps, hein, et que c'est pérenne. Juste pour vous dire tout de suite, c'est notre troisième année d'éco-pâturage. Alors, on y va. Donc d'abord, le principal intérêt au départ, c'était un intérêt économique. Comment gérer les espaces verts en réduisant aussi le coût, hein, puisque vous avez cette approche-là. Alors, ça permet bien évidemment de faire les tâches mécanisées par un troupeau, intervention des espaces difficiles, et en intervenant dans les espaces difficiles, ça réduisait aussi les troubles musculo-squelettiques. Hein, vous savez que d'entretenir les fossés avec les rotophiles, etc., les agents municipaux peuvent avoir des troubles musculo-squelettiques. Suivante. Ensuite, ça permettait aussi de réintroduire ou de créer des activités agricoles en milieu urbain. C'était assez à la mode. On en parle beaucoup. Ça permettait aussi de créer des richesses, hein, de production et de mise en relation des acteurs économiques locaux. Là, on a été un peu déçus. On avait 2-3 agriculteurs sur notre île. Personne n'a répondu à notre recherche. Personne n'était intéressé. Et ensuite, on a vu que un intérêt environnemental, conservation et développement de la biodiversité domestique, on en a parlé tout à l'heure, contribuer à la biodiversité aussi urbaine, lutte contre les gaz à effet de serre, c'est d'actualité, les bruits aussi des machines, et puis permet la production d'un service environnemental. Et en continuant, on a vu que, justement, l'intervention juste avant, c'est qu'on a préservé une race qui était en voie de disparition, qui était la chèvre des Pyrénées. Et comme vous le voyez, là, c'est cette année-là, vous voyez, il y a deux petits chevreaux qui sont nés en février. Mais vous le verrez, on a eu, sur un troupeau de 10 à l'origine, 5 naissances en 2 ans. En procès. Pardon ? Je vais le dire juste après, madame, si vous me laissez finir. Donc, après, on s'est aperçu que finalement, il y avait aussi, avec cette, en mettant en place les copaturages, un lien social qui se crée. Et donc, ben, c'était le processus d'insertion sociale, de construction, puis un facteur intergénérationnel. Puisque nous avions, on a un parc qui était autour d'une maison en retraite, et c'est là où on a mis l'étude de Vincent Borel, de l'association, nous a permis de déterminer cet endroit-là. Et puis après, ben, on continue, puis on s'aperçoit qu'il y a aussi des liens pédagogiques pour les enfants. Pour trouver la chef des Pyrénées, bon, il faut aller dans les Pyrénées. Et comme elle est en voie de disparition, donc les enfants participaient. Donc ça, c'est une maternelle de la ville. Et donc on les fait passer. Je vous parlerai après d'une petite transhumance urbaine aussi qu'on a fait autour de ça. Et puis on participe aussi à l'amélioration des connaissances urbaines sur la nature et des animaux. Puisque Toulouse, avant de trouver une chèvre en plein milieu de Toulouse, c'est un peu difficile. Et donc, comme vous l'avez vu, c'est un projet qui devient transversal. Et plutôt que d'avoir un seul élu, j'ai impliqué les adjoints, donc moi-même, puisque je gère l'environnement et les espaces publics, mais aussi l'action sociale, donc l'adjoint à l'action sociale de la mairie, l'adjointe à l'éducation et l'adjointe à la petite enfance et à la jeunesse. Donc, au lieu d'arriver tout seul face au maire et face au conseil municipal, j'avais sur 9 adjoints, j'en avais déjà 5 avec moi. J'arrivais un peu plus serein. Et après, on a aussi mis dans le comité technique, on parlait tout à l'heure évidemment des agents des espaces verts, qui étaient bien évidemment réticents, puisque nous avons toujours des amis qui disent que, enfin, qui m'ont dit que je voulais remplacer les agents par des chèvres. Donc il faut communiquer après derrière. Bon, le service d'action sociale, bien évidemment, l'éducation, bon, je vous l'ai dit, et surtout, et c'est là où je voudrais insister, c'est-à-dire une stagiaire, nous avons pris une stagiaire, justement, Monsieur Vincent Borel de l'association nous a fait rencontrer un maître de recherche qui recherche comment remettre l'animal en ville, l'agriculture urbaine, etc. Et on a donc cette jeune fille là qui était en licence devait faire une thèse sur l'acceptabilité de l'animal en ville. Et du coup, s'il vous plaît, donc je vais vous présenter les différentes démarches. Donc là, ça c'est typiquement ceux qui ont déjà fait appel à l'association. C'est en gros la prestation qu'ils donnent. C'est-à-dire le premier rendez-vous qu'il y a, c'est qu'on fait d'abord la présentation de la collectivité, visite des sites et collecte des informations techniques. Parce que moi je pensais qu'on allait mettre des chèvres de partout. Dès qu'il y avait un espace vert, je pensais qu'on allait pouvoir mettre l'animal en ville. Et c'est pas du tout ça. Donc là, après, on est un peu frustré. Donc c'est intéressant parce que tout le monde est capable de mettre, si vous écoutez tout le monde est capable de mettre l'éco-pâturage. Mais enfin, quand après, il faut choisir les sites, comment les entretenir et tout, c'est pas aussi évident que ça. 3 mois après, il est revenu avec l'analyse technique, donc avec les déterminations des différents sites, la sélection des animaux. Donc il nous a proposé la chef des Pyrénées, puisque ben, on est pas loin des Pyrénées, à Toulouse. Et puis, détermination du plan de pâturage, les équipements nécessaires, parce qu'après, il faut aussi budgétiser tous ces équipements nécessaires, parce que la chèvre, on la laisse pas en plein milieu, puisqu'on n'a pas de berger. Ensuite, 3 mois encore après, vous avez les estimations du coût de fonctionnement. Donc là, tout à l'heure, il y avait une question là-dessus, vous verrez après combien ça nous coûte. Et puis après, analyse comparative des modes de gestion. Est-ce que les chèvres, on les prend dans la commune, c'est-à-dire est-ce qu'on a les chèvres en régie? Est-ce qu'on externalise complètement le troupeau ou est-ce qu'on fait une méthode partenariale? C'est-à-dire que les animaux sont dans la ville, mais c'est un partenaire qui s'en occupe. C'est cette option-là que nous avons prise. Et puis après, en septembre, on a conclu et choisi les prestataires, défini les responsabilités, aussi juridiques, parce qu'après vous avez le suivi sanitaire des animaux. Si un animal mort, un petit, etc. Donc il y a de l'assurance, il y a toutes ces démarches-là. Hein, que quand on dit on va mettre de l'éco-pâturage, il faut penser à tout ça derrière. Donc, il faut se faire aider quand même. Et ensuite, s'il vous plaît, donc l'étude d'acceptabilité, c'est une étudiante qui l'a fait en simultané. Hein, vous avez vu qu'on était de février à septembre. Et donc là, en même temps, Elle a fait un questionnaire, elle se baladait dans la ville et elle interrogeait les gens sur le marché, dans les cafés, dans les magasins, etc., pour voir un petit peu la résistance ou l'adhésion de la population sur ce projet d'éco-pâturage. Elle a aussi évalué les motifs qui nourrissaient l'acceptation ou le rejet de ce type de pratique. Donc on a eu relevé aussi les préoccupations. Ça va sentir mauvais, il va y avoir des crottes de partout, ça va attirer les mouches. Enfin bon, vous voyez, tout un tas de questions que peuvent se poser la population. Et ce qui nous a permis aussi de préparer derrière des arguments pour contrer un petit peu toutes ces préoccupations. Et en même temps, s'il vous plaît, ça nous a permis aussi de repérer des envies. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui nous ont dit « Mais oui, mais pourquoi vous ne les mettez pas là? Ce serait bien de les mettre ici, etc. » De mesurer aussi le rapport à une nature de type agricole par les citadins. Et puis aussi de permettre l'anticipation et la gestion des situations de coprésence animale en ville. C'est la première conférence que nous avons eue, la place de l'animal dans la ville. Et pour nous, et là, s'il y a ici des communes qui veulent faire, c'est une démarche qui a été vraiment pour nous indispensable. Parce que d'abord, ça nous est venu se coller à l'étude technique, c'est-à-dire qu'aussi, on a bien vu que c'est un argument supplémentaire de faisabilité, l'outil d'évaluation du possible, et puis après, ça a aussi agi comme un moyen d'information. C'est-à-dire qu'on n'a pas eu, du coup, comme cette enquête-là a duré pratiquement 3 mois, on n'a pas eu besoin de communiquer puisque régulièrement, elle avait rencontré la population, on avait communiqué dessus. Et donc finalement, ça nous a permis d'éviter de mettre en place brutalement les chèvres en ville. Alors comment on l'a mis en place? Donc l'association nous a proposé un acteur local, mais quand même à 50 km de Cugnot, qui nous dépose les chèvres en mars et qui les récupère en novembre. Et de novembre à mars, elles sont en hivernage dans une, ça s'appelle la ferme du paradis. C'est une petite ferme pédagogique, hein, où les enfants vont pour y vivre pas mal. Alors nous, le forfait annuel sur les chèvres, c'est de 3 600 € hors taxes. Je ne sais pas si c'est cher, pas cher. Pour nous, ça a correspondu au budget qu'on avait prévu. Et donc on a une moyenne de 10 chèvres. Et donc c'est vraiment très flexible. Lui, il vient une fois par semaine, le week-end en principe, et dans la semaine, ce sont les agents techniques qui passent le matin, vérifier qu'elles ont à boire et que la clôture n'a pas été abîmée. Voilà. Donc l'animal reconnu, c'est les chèvres. Et puis on a fait une convention en septembre 2015, et en octobre, les premières chèvres arrivaient sur la ville. Pour repartir en septembre. Voilà la chèvre des Pyrénées. Avec le bouc. Il fait bien son travail, lui, puisque je vous dis, on a eu 5 naissances. On a parlé d'incivilité, donc c'était une des craintes aussi, hein, d'incivilité. On a évidemment dans toutes les communes, vous avez toujours des incivilités, des destructions du mobilier urbain, un peu tout. Et là, il n'y a pas trop de bois autour de moi là, mais depuis 3 ans, il y a une sorte de respect de l'animal, hein, on en parlait tout à l'heure. Il y a une sorte de respect de l'animal et nous n'avons pas eu de clôture cassée, etc. Alors aussi, donc là j'en parlerai, on a un site sur lequel on communique, qui est à côté de la maison de retraite, qui est aussi pas loin de la gendarmerie, donc c'est, ça peut être une résolution de cause à effet. Et tout ce qui est autre terrain, notamment les bacs de rétention, etc., on ne communique pas là où ils sont. Donc, quand on déplace les chèvres, on laisse toujours 2-3 chèvres sur le parcage, j'allais dire, permanent, et on les déplace et on ne dit pas où elles sont. Voilà. Comme ça, bon, c'est... Et puis après, c'est un petit peu dans les campagnes ou dans les lotissements. Et donc, ça nous permet de... Ben, on n'a pas eu, pour l'instant, de l'incivilité. Bon, une campagne de communication, mais là, je laisserai ma collègue en parler un peu plus. Bon, là, on a mis ça dans le journal local, hein, et dans le journal de la commune. Alors, juste un petit peu un bilan. Donc, en année 2016, donc les chèvres sont... Donc, elles étaient là en octobre 2015. Hein, elles sont reparties, donc, à faire l'hivernage. Et on a mis, lorsqu'elles sont revenues, une sorte de transhumance urbaine. Alors, évidemment, on avait mis les crèches, les mamans, les poussettes. On avait confirmé sur un petit circuit d'un petit kilomètre. Et donc, toutes les familles, vous voyez, là, je vous l'ai mis, suivaient l'arrivée des chèvres jusqu'à leur lieu de pâquage. Donc, en 2016, 2 naissances, 3 sites sécurisés. Elles ont travaillé à peu près sur 2 hectares. Et puis, elles ont commencé à être incluses dans un programme pédagogique avec le centre de loisirs. Et en novembre, elles sont reparties. Et en 2017, les chefs sont revenus et il y a eu 3 naissances en février. Donc, c'est, comme je vous le disais, en 2 ans. Peu point particulier, là, sur la petite photo de gauche, vous avez une chèvre qui est née, mais qui a été... Alors, c'est là quand on voyait que l'animal s'adaptait à l'homme. Hein, elle, la, sa maman n'avait pas assez de lait. Donc, c'est les gens de la ferme du paradis qui l'ont nourrie au biberon et elle ne suit plus les chèvres. Elle ne suit que l'homme. Et donc, c'est marrant. Et donc, quand on a fait le parcours, vous voyez le troupeau, là, qui est, donc c'est la transhumance de cette année. Il y a les 2 petits, mais le 3e, lui, il était dans les bras de la ferme du paradis. Il ne marche pas. Il reste avec les hommes. Donc, voilà la petite transhumance humaine. Cette photo est intéressante parce que, outre le fait que vous voyez deux personnes avec les enfants, sur la gauche, c'est la directrice des services techniques de la ville. Et à droite, c'est l'agent technique de la ville de Cugnot qui est responsable de l'éco-pâturage, donc qui suit à l'année. Si vous n'avez pas l'adhésion des personnels techniques, vous pouvez vous arrêter tout de suite. Ils vont tout faire pour que ça ne marche pas. Hein. Donc c'est pour ça que cette photo elle est intéressante, parce que si vous n'arrivez pas à motiver les personnels, bon, vous pouvez, ils vous trouveront toutes les solutions, ça ne va pas marcher, il n'y a pas d'eau, et c'est compliqué, enfin bon, voilà. On a eu cette chance à Cugnot, ils ont vraiment adhéré et on continue vraiment, c'est bien. Et donc on a rajouté 4 sites en sécurisé pour les avoir. Et puis donc évidemment, ça nous a donné, sur le conseil de Vincent, on a pris une autre association, Nature Midi-Pyrénées, pour faire un inventaire de la faune et de la flore sur les nouveaux sites que l'on va mettre en pâturage. Pourquoi ? Parce que le fait d'entretenir les terrains avec l'éco-pâturage, vous avez de la faune et de la flore qui n'y étaient pas et qui revient parce que justement le terrain est fait avec l'animal. Donc ça c'est très intéressant. Évidemment, élargir et faire profiter les autres communes de cette expérience, c'est ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Et puis on a des partenaires au niveau de Toulouse. Et une idée, parce que comme je vous l'ai dit, j'étais un peu frustré parce qu'on ne le voit pas, c'est de mettre en place un berger urbain itinérant. C'est-à-dire que, du coup, au lieu de faire des parquages, parce que les chèvres, finalement, elles sont vraiment enfermées, hein, parce que c'est la sécurité, c'est de mettre de laisser un peu plus les chèvres en liberté et d'avoir un berger. Mais vous comprenez bien qu'une commune, on est garant de l'argent des citoyens et on n'a pas de quoi embaucher un berger à temps plein. Mais avec plusieurs communes, on pourrait avoir un plan de pâturage plus ouvert. Et donc je cherche des partenaires plutôt dans la région, parce que sinon s'il doit faire 100 km, la lutte contre l'effet de serre, alors on a un peu tout faux, quoi, hein. Voilà, donc c'était un des projets. Et puis finalement on n'invente rien, hein. Ça c'est le Pont Neuf à Toulouse et c'est la Prairie des Fils, pour ceux qui connaissent Toulouse. Bon, ils étaient déjà il y a moins d'un siècle. Voilà, et bien écoutez, il y a encore une, je crois. Voilà, mais je vous remercie de votre attention.
Bravo, merci pour ce témoignage très complet sur la ville de Cugnot. Alors on va remonter, on va aller du côté de Limoges avec l'adjointe au maire du Vigin, madame Nathalie Couty. Et alors c'est une particularité, c'est vrai que ce sont souvent les élus en charge des espaces verts qui s'occupent de l'éco-pâturage. Vous êtes adjointe à la communication, alors pourquoi ?
Mais tout simplement parce que en tant que citoyenne, je m'intéresse à ce qui se passe autour de moi, à la préservation de la biodiversité. Et donc, voilà, ça a coulé de source qu'à un moment donné, je me retrouve impliquée dans ce type de projet, de façon, pas forcément en tant qu'élue, mais en tant que citoyenne, tout simplement. Le projet dont je vais vous parler, je vais essayer d'être assez rapide, mais il est un petit peu différent du vôtre. D'abord, des baies, on passe au mai. Et nous avons opté pour des moutons. Et nous avons travaillé dans le nord de notre commune. Nous avons une commune qui fait 30 km carrés, qui est accolée à la métropole, à Limoges, la capitale anciennement régionale, qui ne l'est plus. Et nous sommes une toute petite commune de 2089 habitants, qui est une commune semi-rurale, avec au sud énormément de terres agricoles et d'éleveurs. Nous avons ce grand bonheur d'avoir beaucoup d'éleveurs et de maraîchers sur notre commune, et on essaie vraiment de faire en sorte qu'ils soient heureux et qu'ils continuent à travailler dans de bonnes conditions. Au milieu, nous avons le bourg du Vigin, qui est vraiment un bourg tout petit, qui a quelques encablures d'une autre toute petite commune qui s'appelle Solignac. Et puis, donc, sur le nord de notre commune, l'urbanisme s'est bien, bien développé, et nous avons plusieurs lotissements qui ont, je dirais, la tête tournée vers la métropole et le dos un petit peu à notre bourg. C'est un peu dommage, mais c'est comme ça. On essaie, en tout cas, de pouvoir essayer de faire en sorte qu'ils viennent un petit peu plus vers nous et qu'il se passe des choses. Voilà. Donc, en fait, le projet est situé sur le nord, donc, de la commune. Oui, il y a un tissu associatif qui est extrêmement développé sur notre commune. Donc le site de l'Écura est sur le nord de notre commune. Et au départ, il faut bien dire que c'était un site qui était un petit peu difficile déjà à travailler. C'est un site de 2,5 km et qui nécessitait beaucoup d'entretien mécanique. Et avec une configuration très particulière. Voilà, on était sur un terrain assez accidenté. Et donc, le départ, ça a été évidemment de rechercher à faire des économies, mais pas uniquement, quand même. Nous avons... je vous avoue que j'ai du mal avec ce genre de truc. Je préfère parler plutôt que de regarder les images. Ça vous dérange pas? Parce que ça me trouble, en fait. le but, c'était de faire des économies et aussi de voir comment ce terrain qui était complètement accolé, en fait, à un lotissement qui existait depuis 28 ans, comment on allait pouvoir faire en sorte d'introduire des animaux et en même temps de changer un petit peu les habitudes des habitants. Petite historique en 2 secondes, parce que c'est vraiment très particulier. C'était un lotissement privé. Il y avait donc ce grand terrain de 2,5 hectares dans lequel se trouvait un ouvrage technique qui était un bassin de rétention des eaux pluviales. Les habitants, comme ils étaient chez eux, ont bouché l'ouvrage et l'ont transformé en étang. Ils l'ont empoissonné et c'était devenu un petit jardin d'agrément. Ils avaient planté des arbres. C'est très bucolique, très sympa. Il y avait des petits bateaux qui se baladaient. Voilà, des gens qui étaient passionnés de modélisme. Donc, il y avait toute une vie dans ce lieu-là. Et les habitants ont demandé que ce lotissement privé passe dans le domaine public, c'est-à-dire qu'il devienne municipal. Ça a été un petit peu difficile, et sous la précédente mandature, la maire de l'époque a été vraiment très bien, elle a fait parfaitement son job, le lotissement donc est devenu municipal. Et comme nous faisons partie d'une agglomération qui s'appelle Limoges Métropole, la direction de l'assainissement et des espaces naturels est intervenu en disant « Ah, attention, nous sommes donc dans le domaine public, il y a un ouvrage, cet ouvrage n'est pas conforme, il va falloir qu'on intervienne, qu'on vide, et puis qu'on remette cet ouvrage technique en conformité avec la législation. » Donc là, déjà, il y a eu un lever de bouclier épouvantable de la part des habitants, ce qu'on peut tout à fait comprendre. Parce que c'était devenu un lieu de vie, un lieu de rassemblement de ses habitants. C'est quand même 80 maisons qui sont à proximité du lieu. Et donc, au départ, oui, il y a eu une véritable hostilité au fait qu'on puisse éventuellement proposer l'introduction d'un troupeau pour venir entretenir ce terrain-là. Et peut-être qu'il y a eu quelques maladresses au départ. Alors bon, je ne jette pas la pierre aux anciens élus, mais il y a eu un problème, vraiment un manque de communication. Et effectivement, et je reviens sur ce que vous disiez tout à l'heure, c'est très important de communiquer avec les habitants. Pourquoi ? Parce que quand ils voient d'un seul coup un troupeau qu'ils n'ont pas imaginer venir juste à côté de leur maison arrivait. Là, d'un seul coup, il y a une forme d'hostilité très forte. Et carrément, bah, les habitants ont ouvert les clôtures et, pour bien, bien spécifier qu'ils n'étaient absolument pas d'accord avec l'introduction de moutons sur ce lieu-là. Donc là, notre mission, ça a été un véritable travail de communication, d'échange et de préparation en fait des habitants, en particulier des habitants riverains, qui sont vraiment, mais alors tout autour quasiment, il n'y a qu'une zone où il n'y a pas de maison. Si vous voulez, la clôture officielle de ce site-là, ce sont les propres clôtures des particuliers. Donc voilà, c'était vraiment hyper essentiel qu'on puisse travailler de concert avec eux. Et je ne vous cache pas que c'est très compliqué. Parce qu'on a lancé donc ce qu'on a appelé un comité de village. Et au départ, on a eu très très peu d'habitants qui venaient. Et pour beaucoup, souvent des personnes hostiles au projet. Tout notre travail a été justement de passer du temps, de discuter, d'imaginer des solutions. Et puis surtout, on a énormément travaillé avec les techniciens de Limoges Métropole et du service de l'assainissement, qui ont fait un boulot formidable, qui sont venus en dehors de leur temps de travail, et ça c'est juste un truc de fou, pour pas mal de réunions, pour vraiment expliquer déjà la nécessité de remettre en conformité l'ouvrage et tous les avantages qu'on pourrait avoir à faire venir justement des animaux. Donc ces réunions, elles ont été au départ un peu timides, et nous avons constitué avec les habitants deux groupes de travail. Un sur la valorisation du site, où on est parti dans un brainstorming en direct à chaque réunion pour essayer d'imaginer ce qu'on allait pouvoir faire de ce lieu qui est un espace naturel qui a été étudié justement par la direction des espaces NAT, hein, où voilà, on est sur un milieu humide et on a énormément communiqué là-dessus en disant mais en fait un milieu humide c'est une zone à préserver, c'est une zone d'observation. De cette réflexion-là est venue aussi la volonté de créer une mare pédagogique, parce qu'on a une école qui est à 1,5 km et que les classes de CM1, CM2 pouvaient tout à fait participer au projet. D'ailleurs, le directeur de l'école a été, s'est associé à ce temps de réflexion. Donc c'est quelque chose qui est important. On a un animateur nature aussi avec lequel on travaille sur le temps d'aménagement périscolaire, qui est venu aussi complètement bénévolement parce que passionné pour travailler sur la création de la mare. Et maintenant, on en vient à nos moutons. Le deuxième groupe, c'était un groupe de valorisation. Et ce groupe de... Pas de valorisation, pardon, de ce groupe de... pardon ? D'éco-pâturage. Eh bien, là, en fait, nous avons une démarche qui est complètement différente de la vôtre, à savoir que nous n'avions pas de professionnels en éco-pâturage sur la région. Et le travail s'est fait vraiment dans une réflexion avec les techniciens de l'agglo sur comment fermer le lieu, qui faire intervenir. Il s'avère qu'on avait un éleveur qui faisait paître ses moutons tout autour du site et qu'on a contacté et qui était finalement qui a complètement accepté de façon je dirais gracieuse de mettre à disposition un troupeau de 30 têtes de moutons. Donc on a lancé évidemment un accord tripartite entre l'agglomération qui, elle, est responsable en fait de ce fameux ouvrage technique, notre commune pour ce qui est de l'entretien et de la sécurisation en fait du site, et évidemment ce très 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 gentil et très sympathique propriétaire de moutons qui s'appelle François. voilà, qui en plus n'est pas un habitant de la commune. Il habite une commune un tout petit peu plus loin, mais bon, il s'avère qu'en fait, il loue des terres sur notre commune et que, voilà, pour lui, c'était une opportunité quand même, parce que 2,5 hectares, c'est pas mal pour... voilà, pour, je dirais, un petit complément de terrain pour ces animaux. Voilà, donc là, vous avez justement une partie des techniciens de l'agglomération, les agents municipaux et des élus, en fait, qui essaient de, de déterminer à peu près la zone pour creuser la fameuse mare pédagogique qui a été, qui s'est implantée au pied d'un magnifique chêne pédonculé et sous lequel, en fait, il y a une source. Donc, les animaux ont de l'eau tout le temps. Et on parlait aussi de la façon dont les gens s'approprient un petit peu les... je vous avoue qu'on a eu vraiment des, par moments des difficultés, vraiment une véritable hostilité. On s'est retrouvés sur des réunions avec des habitants qui arrivaient hyper en colère, prêts à en découdre. Et on se disait, ouh là là, comment ça va se passer? Et puis, je crois qu'à la réunion qui a été peut-être la plus compliquée au départ, c'est celle qui finalement a été la plus positive, puisque les personnes qui étaient le plus hostiles au projet sont devenues les ambassadeurs de notre lieu. Et ça, c'est juste magnifique. On a des habitants maintenant qui se sentent complètement responsables des moutons, c'est-à-dire qu'ils les surveillent. Quand on est en période d'agnelage, ils nous téléphonent, soit aux élus qui sont impliqués sur le projet, soit directement aux services municipaux, pour prévenir le propriétaire en disant, voilà, on a vu une brebis en difficulté. Et on est même allé jusqu'au point l'année dernière où un habitant est intervenu et a aidé carrément une brebis à agneler. Donc, voilà, c'est de cette zone de... Enfin, bon, après, on a le lieu est resté, en fait, une zone de promenade. Avec l'aglo, on a travaillé sur la façon dont on allait clore ce lieu, et en particulier travailler sur un portillon qui est intéressant dans le sens, en fait, où il permet évidemment aux humains de pouvoir rentrer, même avec des poussettes, hein, et en même temps ça laisse une grande autonomie. On n'a pas de gardiennage particulier. Le personnel municipal n'est pas impliqué du tout dans la vie du troupeau. C'est une histoire, en fait, entre la commune et les élus et le propriétaire, en fait, du troupeau. Je ne sais pas si j'ai tout dit, en fait. Parce que ce n'est pas évident, en fait. J'avais pris des petites notes pour revenir un peu sur ce qui avait été dit précédemment, mais... Vous me dites, hein.
Peut-être. Ouais, ça va, hein. Ouais, faut pas. Alors.
Je vais vous poser quelques questions complémentaires. Est-ce que vous faites de la pédagogie autour? Bon, c'est vrai qu'on a bien compris qu'au départ, il fallait déminer surtout, mais est-ce qu'aujourd'hui, vous faites de la pédagogie? Par exemple, est-ce que les nourrices, je sais que c'est souvent une activité qu'elles aiment bien, les nourrices, emmener les enfants, voir les animaux, est-ce qu'il y a des choses, des maisons de retraite, etc. Est-ce que c'est prévu, c'est en cours?
Alors déjà, on n'a pas de maison de retraite sur notre commune. Donc, si on a plein de personnes âgées, mais elles viennent plutôt se balader. Non, enfin, au niveau pédagogique, c'est vraiment un travail avec l'école et en particulier les classes de CM1, CM2, qui travaillent sur la préservation de la biodiversité. Hein. C'est bien au-delà du projet d'éco-pastoralisme. En fait, on développe avec les habitants, les riverains, d'autres projets. On va bientôt accueillir justement des ruches dans une zone qu'on a laissée depuis le départ du projet en friche pour que les enfants puissent venir observer la biodiversité. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une zone qui n'est pas consommée par les moutons. Et dans cette zone-là, vers le fond, on va pouvoir installer des ruches. L'année dernière, nous étions partis aussi sur la création d'un petit jardin partagé consacré aux cucurbitacées. Et vu le temps, ça a été un fiasco. Donc voilà, on a des choses positives, on a des choses plus négatives, mais après, on continue d'avancer. Sur le projet éducatif, pédagogique, Alors, parfois, ça avance vite. Moi-même, en tant qu'élue, je suis allée intervenir directement dans l'école. J'avais essayé d'associer les enfants non seulement en fait à l'observation de la biodiversité, mais aussi justement pour les impliquer sur éventuellement la création de ce jardin partagé. Voilà. Je sais pas si je...
Je vais inviter déjà ceux qui voudraient poser des questions après. Si vous voulez vous approcher, ça va gagner un peu de temps.
Alors donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons une maison de retraite et cette maison de retraite est sur le chemin d'une école maternelle. Et effectivement, pour vous dire, et comme je vous l'ai dit, la base permanente où sont les chèvres en permanence, c'est cette maison de retraite dans le parc. Et maintenant, les nounous ou les mamans qui vont chercher leurs enfants ou qui les amènent, avant ne traversaient jamais le parc, ne passaient jamais vers la maison de retraite. Or, maintenant, c'est un nouvel itinéraire qui vient de se passer. Et donc là, il y a vraiment le lien intergénérationnel, en particulier le soir. Puisque le matin, les mamans, elles vont plutôt vite à l'école, mais le soir, il y a beaucoup plus de temps. Et là, elles restent et elles discutent avec les personnes âgées. Et donc, c'est vraiment le lien intergénérationnel.
Et puis, on l'a entendu, vous avez ce projet de berger itinérant avec d'autres collectivités. Vous-même, vous avez fait du covoiturage, je crois, pour venir. Et ça, vous ne le saviez pas, mais sur votre agglomération de Limoges, il y a d'autres projets. Vous ne connaissiez même pas, mais finalement, c'est grâce à ces rencontres où vous avez été contacté pour faire du covoiturage.
Oui, on a été contacté par la commune de Panazol. En fait, je connais quand même l'élu parce qu'on se retrouve à siéger dans des commissions justement environnementales, en particulier sur l'agglo. Mais il y a d'autres communes et nous, en fait, le deal, c'est même pas un deal, c'est l'engagement, qu'on a eu envers la communauté d'agglomération. C'est au vu de l'investissement de l'agglo sur le plan humain, sur l'aspect technique, les investissements financiers aussi qui ont été faits sur le site pour qu'on puisse aller au bout de ce projet et continuer à le développer, c'était hyper important. Et ça y est, j'ai oublié ce que j'étais en train de dire. J'ai été troublée par les bestioles, au fond. Oui, l'essaimage. Notre engagement, c'était de devenir ambassadeur. Et je crois que c'est hyper important. Et ça aussi, c'était quelque part aussi ce que j'avais plus ou moins vendu aussi à l'école, en disant que finalement, si on avait cette action pédagogique avec les enfants, c'était aussi une façon de faire en sorte qu'on puisse recevoir des écoles de l'agglo sur notre terrain et que les enfants, nos enfants, soient les propres ambassadeurs de ce site-là. Voilà. Et on a des élus qui sont venus et qui sont en train effectivement de développer de l'éco-pâturage sur leur propre commune. Donc pour nous, c'est hyper important. Enfin, je crois qu'il y a une forme de SAV et puis de responsabilité à avoir, nous, en tant qu'élus. Moi, la plupart de mes collègues qui sont investis sur le projet, on a normalement, c'est pas dans nos attributions, mais c'est aussi un engagement citoyen et c'est important.
Effectivement, alors je suis sûr que ça va appeler des questions, ce lien que vous avez avec l'éleveur. C'est vrai que vous lui mettez à disposition donc le terrain, il louait un terrain, si j'ai bien compris, à côté, donc il payait, là vous lui mettez gracieusement, là c'est autre chose, c'est une prestation, vous travaillez donc sous forme de prestation, il n'y a sans doute pas de règles ou de bonnes solutions. La vôtre est quand même pas mal pour la collectivité en tout cas, mais j'imagine que les éleveurs, ça vous laisse pas indifférent, ceux qui se lancent dans la prestation d'éco-pâturage. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il y a des questions de ce côté-là? Ouais. Alors si vous voulez venir comme ça, tout le monde va entendre votre question, merci.
Oui, bonjour. C'est pas vraiment une question, c'est plus un constat. Quand vous parlez de prestations de mise à disposition, ce qu'il faut prendre en compte aussi, par exemple là sur la commune de Chinon où la communauté de communes a instauré un pâturage de pelouse sèche de 7 hectares. Donc certes c'est une prairie pauvre, mais malgré tout herbacée. Le deal, c'est qu'on a en Indre-et-Loire très 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 peu d'éleveurs, à la différence de votre région probablement. Et du coup, c'est aider certains agriculteurs à pallier à la raréfaction des prairies. Et le prestataire, l'agriculteur, lui, est rémunéré, sera rémunéré par la communauté de communes. Donc, il n'a pas une gratuité. Il a une gratuité de la prairie. Entre autres, là, c'est un essai de 7 hectares. Mais en plus, il sera rémunéré pour y mettre les moutons, quoi. Donc ça, c'est important dans certaines zones où les agriculteurs, eux, c'est eux qui sont en voie de disparition via la disparition des espèces. C'est aussi aider. Et je voulais aussi noter que, hormis le fait que, d'un point de vue économie, je pense que votre exemple, Cugno, c'est vraiment un exemple très probant parce que vous avez dégagé, enfin vous avez mis en avant tous les autres intérêts, enfin tous les autres avantages. Parce que nous, ce qu'on remarque, ce qui est un petit peu dommage en Indre-et-Loire, c'est que on va avoir, parce que moi je travaille pour une association d'éducation à l'environnement, et on a une régie rurale où on a 80 brebis qu'on met à disposition pour les collectivités. Mais c'est toujours cet aspect-là en priorité. Alors je sais bien que c'est l'argent, c'est le nerf de la guerre, c'est ce qui est mis en avant. Mais quand on voit l'exemple de votre ville, quand on voit tous les autres tous les autres avantages pédagogiques, intergénérationnels, soulagement physique par rapport aux agents, valorisation de la biodiversité, c'est quand même ce qui devrait être mis en avant. Et notre berger, qui est salarié à raison de 2 jours par semaine, il essaye dans ses devis, enfin dans la proposition de prestation, le bien-être de l'animal, quoi, aussi. C'était qu'il y a valorisation de la biodiversité, mais aussi il faut prendre en compte l'animal en lui-même, que c'est pas un animal à 4 pattes mécanique, quoi, hein. Je veux dire, voilà, il faut y mettre les conditions aussi, et pas simplement dire, ben voilà, on va mettre les moutons et là, on va pas s'en occuper, quoi. Donc merci.
Merci pour effectivement cette remarque. Et je me souviens, ceux qui étaient là à Saint-Herblain, il y en a sûrement parmi vous qui étaient là à la 2e édition, il y avait un éleveur qui se disait éleveur sans terre, finalement, parce qu'il faisait que ça, il mettait ses troupeaux donc à paître dans les différentes collectivités. Finalement, c'était un partenariat, ça lui permettait de se lancer dans l'élevage sans avoir à investir dans la terre. Donc c'était effectivement une autre formule, merci de l'avoir souligné. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a des questions? J'imagine que oui, on a un peu de temps, on a une dizaine de minutes avant le début de la prochaine activité qui sera une démonstration de chiens de troupeau qui aura lieu juste devant, là, juste devant les tribunes. Mais on a le temps de prendre quelques questions, quelques remarques, quelques... Il y en a? Ouais, si vous voulez, vous avez peut-être... Allez, rapide. Le bien-être animal dans l'éco-pâturage d'une manière générale? Dans le bien-être animal dans l'éco-pâturage. Qui va répondre à cette question? Il y a des...
On essaye d'éviter le mal-être animal. Mais alors, je ne sais pas... on n'a aucune chef qui s'est plaint encore depuis qu'elles sont à la commune. Mais alors, effectivement, ça a été une des remarques, notamment dans l'enquête, c'était de savoir comment on allait pâturer. Parce qu'au départ, c'est vrai que la chèvre au piquet, hein, on la met avec une sangle, elle tourne, une fois qu'elle a fini, hop, on déplace le piquet, elle continue, voilà. Donc ça, c'est du mal-être animal. Donc on a plutôt mis des clôtures parce que on n'a pas de berger. C'est pour ça que je voudrais aussi un berger pour pouvoir justement les laisser encore plus en liberté. Mais chaque fois qu'on a fait de la pâture, c'est vraiment, c'est très grand, quoi. C'est, alors je peux pas vous dire, mais enfin bon, elles ont de la place, quoi. 10 chèvres, et elles ont, et elles bougent régulièrement. Alors je ne sais pas quel est le mal-être animal dont on peut parler. La population, donc, contrairement à vous, elle n'a pas accès. Hein. Bon, parce que c'est des chèvres déjà. Alors voilà. Alors, bon, il y a des cornes. Je ne sais pas si. Et puis il y a un bouc. Donc il vaut mieux pas prendre de risques avec la population.
Oui, non. Moi, je disais qu'en fait, on a vraiment un cheminement, c'est-à-dire que les habitants peuvent se passer, même avec leurs chiens. Alors évidemment, tenus en laisse, ça c'est évidemment ce qu'on a mis en place pour éviter justement que le troupeau soit perturbé, stressé. Voilà, on a mis en place toute une signalétique pour faire en sorte que les gens puissent continuer à se balader, mais en même temps respectent évidemment la vie du troupeau. C'est logique.
Est-ce que ça répond ? C'est ce que vous vouliez dire par là, c'est que l'animal n'a pas forcément sa place en ville, c'est ça que vous voulez dire ? C'est pas sa place d'être... Non ? C'est quoi alors, en fait, le sens de la question, c'était... Le bien-être animal en ville, ouais. Alors, des réponses, je pense que vous en aurez tout à l'heure à 14h30. Je botte pas en touche, mais un petit peu quand même. Il y a la règle qui va être expliquée, justement, vous avez raison, hein, parce qu'il y a l'Union nationale des entrepreneurs paysagers, donc qui présentera tout à l'heure à 14h30 dans l'atelier numéro 2 les règles liées aux travaux d'éco-pâturage. Et j'imagine que dans ces règles, il y a sûrement un volet sur le bien-être animal. Non, vous la connaissez, la règle ? Et il n'y a pas de référence au bien-être animal ? Bon, un petit peu. Et donc là, je pense que là, ça sera effectivement la question à poser à ce moment-là, effectivement. Mais je pense que tous les éleveurs, on l'a vu tout à l'heure, on avait Vincent Cerclier qui était là. Et ceux qui sont dans la salle, je pense que tout éleveur est attaché au bien-être de ses animaux. Et s'il le fait, c'est pas seulement pour avoir un nouveau débouché, un nouveau marché. C'est aussi parce que, il s'attache à toutes ces questions-là. Alors voilà, c'est ce que vous voulez dire, c'est pas... On pourra poser aussi la question cet après-midi dans les témoignages. Vous avez raison aussi qu'on aura là, donc avec les collectivités, les entreprises, sur certains sites ou autres. Et c'est pour ça qu'il y a ces différents témoignages qui seront là et les différents sites où on peut mettre des animaux. Effectivement, il n'y a pas que le côté communication, image. Et donc, il faut prendre en compte cette notion. Vous avez raison. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres remarques, madame, juste à côté ? Alors là, on n'entend pas. Si vous voulez approcher, parce que je suis désolé. Hein.
Alors, non, ça, c'est mon objectif. Voilà. C'est pour ça que je veux un berger en ville. Parce que, effectivement, pour chaque fois qu'on déplace les animaux, donc vous avez vu qu'on était en partenariat. Donc la responsabilité des animaux, elle est faite par la ferme des paradis de Rium. Donc chaque fois qu'on bouge les animaux, on le fait en principe le week-end, hein, c'est-à-dire qu'on détermine les lieux de pâture différents, et pour l'instant on n'est que dans des lieux clos, où effectivement de temps en temps on fait de la clôture temporaire, hein, comme vous avez pu le voir tout à l'heure, avec donc vous êtes très observatrice, et effectivement pour l'instant on n'en est pas là. Hein. Voilà, on n'est pas encore en ville, et c'est vraiment mon objectif. C'est pour ça que je veux je voudrais ce berger avec d'autres communes. Hein. Je relance encore le message à mes amis de Saint-Jean, hein, parce qu'il faut que voilà. Et là, on pourra effectivement amener les copâturages, alors peut-être des brebis, etc. Mais en centre-ville, parce que c'est vraiment le but. Alors, vous parliez que de communication, il n'y a pas que ça, parce que effectivement, dès que les chèvres descendent du camion, elle commence à travailler, parce que la chèvre, je peux dire qu'elle s'arrête pas, elle mange. Sauf la chèvre des Pyrénées, qui est très curieuse, et lorsqu'il y a des enfants ou des gens qui s'arrêtent, elle arrête de brouter, et elle va s'approche, et il faut pas rester trop longtemps, parce que sinon, elle mange pas. Voilà. Non, mais elle travaille bien, et effectivement, c'est 2 hectares qui ont été complètement enlevés de l'entretien des agents des espaces verts. Voilà. Alors, eux, les espaces verts, je me permets de répéter, ou je ne sais pas si je l'ai dit tout à l'heure, leur rôle, c'est le matin, vérifier que les clôtures sont bien faites et vérifier qu'elles ont de l'eau. Et pour le bien-être animal, on a des petites cabanes, hein, et donc on a, dans chaque site, il y a une cabane pour qu'elle puisse s'abriter aussi. Mais en principe, bon, elle est assez rustique, la chef des Pyrénées, elle ne va pas dans la cabane, elle reste toujours dehors, même sous la pluie, etc.
Nous, au niveau de je me souviens plus ce que je voulais dire encore. Oui, au niveau de l'entretien, donc on a divisé par 2. Ça nous fait quand même une économie assez substantielle. Ça permet aussi, évidemment, vu qu'on a une toute petite équipe de municipaux, de pouvoir travailler ailleurs. Et puis, je crois que ça a créé du lien. Et ça, je crois que c'est hyper important de le dire. Ça crée du lien. Ça crée du lien entre les gens. Ça crée du lien entre les élus et les habitants. Ça crée du lien entre les habitants eux-mêmes. Et je crois que ça, c'est vraiment fondamental. Je sais pas, j'ai pas dû bien présenter les choses, mais si vous avez envie qu'on en parle dans la journée, ça sera avec plaisir. On a vraiment fait en sorte que même si on avait des tout petits groupes de personnes qui travaillent avec nous, qui se sentent vraiment pris en considération. Et puis, au-delà des réunions, ça a été aussi des moments de rencontre et de partage où on boit un coup, où on mange un petit bout. Et ça aussi, c'est important pour pouvoir faire passer des projets, je crois. Voilà. Je dis pas, on ne soudoie pas les gens, mais à un moment donné, d'être dans un rapport d'humain à humain, c'est fondamental. Voilà. En tout cas, nous, c'est comme ça qu'on a travaillé.
Voilà, je crois que ça sera le mot de la fin pour la matinée parce que c'est très beau. Merci pour ces mots de conclusion. On peut les applaudir, effectivement. Alors, attendez, je vais vous donner quelques consignes pratiques. Donc, je l'ai dit tout de suite, démonstration donc de chiens de troupeau devant. Ça sera devant les tribunes. Il y aura une deuxième démonstration à 14h30. Ça sera un petit peu plus loin. Vous pouvez tous midi aussi profiter du village des races. Vous avez vu, il y a beaucoup d'éleveurs et ça sera l'occasion peut-être d'aller parler de bien-être animal avec ceux qui présentent leurs animaux. Donc il y a beaucoup d'éleveurs qui sont à l'entrée et qui vous présentent différentes races qu'on peut utiliser dans l'éco-pâturage. C'est une première un peu pour les rencontres nationales. Hein. On l'avait un peu testé, je crois, à Saint-Herblain. Mais là, vraiment, vous avez beaucoup de races présentées. Profitez-en, allez échanger avec ces éleveurs, voyez comment ils travaillent, comment ces animaux peuvent vous accompagner dans vos démarches. Et puis quand même, pour cette pause déjeuner, vous avez trois possibilités pour manger. Soit donc au restaurant de l'hippodrome pour 15 €, ou soit des formules donc plus rapides, soit des galettes ou soit des fouets. Donc il y a deux petites possibilités qui vous sont offertes pour moins cher que le repas de l'hippodrome. Mais voilà, donc vous avez trois possibilités. Juste attention avant de partir, notez bien l'heure du retour. On va redébuter les travaux donc à 14h30 pour cette présentation donc de la règle des travaux d'éco-pâturage. Donc c'est l'atelier 2. Et puis nous, on va se retrouver ici en plénière donc à 15h. Soyez bien à l'heure pour justement des témoignages de collectivités et d'entreprises qui se sont lancées dans cette démarche. Merci, bon appétit et à tout à l'heure.